Cette émission est une présentation Intersport Productions.
94.5 Unique FM, les micros sont ouverts.
Bienvenue dans le vestiaire.
Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
Jour de match aujourd'hui, les Sénateurs vont terminer leur petit voyage en Floride en s'arrêtant contre Tampa, le Lightning qui les attend de pied ferme. Quelques changements à la formation, les Sénateurs doivent sortir leur meilleur.
Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
Au 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
Sortir le meilleur et surtout connaître une première victoire sur les patinoires adverses en 3 départs, ça fait patate. Reconfiguration sur les trios, surtout à la ligne de centre. Nouveau duo avec Branson qui s'en va rejoindre Chabot. Hâte d'en parler alors qu'on apprend aujourd'hui que les Sénateurs sont maintenant à vendre. Renaud Lavoie va nous en parler. Hâte de lui jaser. Antoine Pruneau va faire le bilan du rouge et noir. Saison, encore une fois, misérable. Martin Dagenais, les 67, et Rosanne Joly pour le basketball. Nous sommes mardi. C'est une émission écourtée qu'on vous propose. Une émission maintenant disponible sur toutes les plateformes en balado-diffusion. Très heureux à part de ça. On n'arrête pas le progrès. Diantre de Batatlan, nous sommes rendus dans les années 2020, finalement. Alors, merci de nous écouter, soit en direct, ou soit en balado-diffusion, mais sachez que peu importe la façon que vous nous écoutez, vous êtes toujours le bienvenu dans notre vestiaire. On a également l'application qui est disponible pour toutes les plateformes, mais c'est gratuit à part de ça. Bref, une émission où on devra être très discipliné encore une fois, parce qu'on a 4 invités dans une émission très condensée à 18h30. On fera place, évidemment, à l'avant-match du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, parce que ce soir, effectivement, il y a un match avec le hockey Véronique Lossière des Sénateurs, 19h05, le coup d'envoi. Les Sénateurs doivent mieux paraître que samedi, mais non seulement mieux paraître, apaiser les inquiétudes, parce que après avoir connu 4 victoires en 5 départs à domicile, les inquiétudes étaient apaisées, tout le monde était heureux, voyait l'avenir avec les lunettes roses, puis tout est correct. Mais non, on n'a pas réglé le problème, ces patinoires adverses. Puis avec tout ça, ben, on se retrouve en ce moment à une des dernières formations dans la conférence de l'Est, dernière au classement de l'Atlantique. Tu veux pas entendre ça, et c'est ça l'affaire. Je veux pas trop le dire souvent, puis je veux pas le dire trop haut, parce que s'il y a une chose qu'il faut éviter cette année pour les Sénateurs, c'est de parler d'un club de bas de classement. Il me semble qu'on se rappelle, on se répète des années dernières. Colin de Bin de Colin! Non, faut pas paniquer. Voyons donc. C'est juste, il n'y a même pas 10 matchs encore. Mais. Là, est-ce que, je veux dire, on a retrouvé les bonnes combinaisons. Pinto a reçu une promotion, puis c'est correct comme ça, je pense que c'est la logique même. D'ailleurs, recrue du mois d'octobre, mesdames, messieurs, premier depuis Tim Stutzla. Alors, c'est lui qui mène à chapitre pour le nombre de buts. On avait 6 en 8 matchs. C'est pas piquer des verres. Donc, avec Giroux et avec Debrincat, la combinaison est potable. La combinaison sera-t-elle fructueuse? Hâte de voir. On a vu quelques bribes. On va se compléter. J'ai brûlé un lampion pour ça. Castellick, lui aussi, a une promotion. Passe du 4e au 3e trio avec Mott et avec Joseph. Joseph doit produire un petit peu plus. Ça sera un peu émotif pour lui parce qu'il a passé quand même 4 ans avec l'organisation du Lightning. Donc, c'est un premier retour pour lui. Là où tout a débuté. Un bonhomme qu'on va surveiller également, c'est Tim Stutz. Il faut que ça commence à rouler. Là. Mon Tim, là, avec 8 matchs, seulement un but. Et dans le dernier match, on s'entend d'une façon générale. Je pense que le club a été invisible, mais lui en particulier. Et rappelons qu'il évolue quand même dans le poste de centre numéro 1. Est-ce qu'il est capable de gérer ça, surtout sur les patinoires adverses? Tu n'as pas le dernier changement, tu n'as pas les jumelages que tu veux. Est-ce que lui est exposé justement à cette couverture plus accrue? Question qu'il faut se poser. Chabot avec Brandstrom, qu'est-ce que ça va donner? Ben, on espère que ça va permettre, d'alléger les responsabilités d'un Thomas Chabot. Je doute fort qu'on puisse maximiser son talent en le faisant jouer de façon récurrente à plus de 29 minutes de temps de glace. On revient un peu avec nos vieilles habitudes et la solution qui était facile pour DJ Smith dans les années précédentes, c'était encore une fois d'envoyer 72. C'est correct, je comprends, c'est ton meilleur défenseur. Mais là, avec l'apport d'un Brandstrom, l'apport d'un Sanderson, je pense que tu es capable de partager un petit peu plus la tarte. Je dis ça comme ça. Pour moi, le coach, mais certainement une décision qu'on devra prendre à un moment donné parce que oui, comme l'a dit Michel tantôt à son émission, Je veux dire, plus tu le fais jouer longtemps, à un moment donné, la fatigue s'installe, puis c'est là que tu l'exposes pour des blessures. Dois-je rappeler qu'il y a un petit problème de profondeur à la ligne bleue? Ben non, Saint-Pierre, parle-en pas, parce que si t'en parles, ça va arriver. Alors, touchons du bois. Touchons du bois, j'ai la salière. Je peux te faire en arrière de moi? Pas la salière, le sel! Le sel! Mick Lafleur qui nous dit, voyons pas la salière, Saint-Pierre. Non, non, c'est le sel. Faites-vous-en pas. J'aimerais parler avec Mick, mais Mick, en ce moment, qui est en train de muer.
Oh, 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 non, ça s'améliore, ça s'améliore.
Ah, je vois ça. C'est bon, c'est bon. Il y a le match ce soir à MLB. C'était remis, ça, d'hier. Donc, c'est un match qu'on va voir ce soir, match numéro 3.
Oui, effectivement, Nicolas. Si je me trompe pas, on a changé de lanceur pour les Phillies. C'est Suarez qui sera sur le monticule et McAllister Jr. toujours pour les Astros.
McAllister avec une fiche de 4-2. Ouais, 4-2, c'est ça. C'est une régulière, ça. Hein? Ouais, c'est... Bref, en tout cas, Lance McAllister Jr. qui sera au monticule pour les Astros. À suivre, comme on dit. On en parlera demain, d'ailleurs, avec Phil Aumont, qui sera avec nous à l'émission. Les sénateurs avec tout ça, au-delà de la performance, on apprend aujourd'hui, selon le site spécialisé en affaires sportives, Sportico, que le club est bel et bien à vendre. Il y a la succession de M. Melnyk, les filles à M. Melnyk, les héritières, devrais-je dire, qui ont procédé et ont approché donc une firme qui s'appelle, moi essayer de ne pas cabotiner là-dessus, Galatiotto Sports Partner. Ça, c'est une firme basée à New York et qui est spécialisée justement pour les transactions de ce genre-là. Sportico lui-même qui a fait son classement des valeurs des formations Ligue nationale de hockey. La moyenne s'élève maintenant à plus d'un milliard de dollars. C'est vous indiquer comment on a progressé, même suite à l'an dernier. Les sénateurs ont fait un bond de 9%, si je ne me trompe pas. On les évalue à 655 millions de dollars. Mais considérant que la dernière franchise à avoir entré a été payée 650 millions, je m'excuse, mais je pense qu'on voit un petit peu plus que 655 millions. Je dis « on ». Je parle du club ici, là. C'est pas mon argent. Avec le projet des Plaines Le Breton, le club est promoteur. Si on est capable de ficeler le tout, c'est une valeur ajoutée. Apparemment que, sans dire qu'on se bat au portillon, il y a un peu, beaucoup d'intérêt. Beaucoup, beaucoup d'intérêt. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Est-ce que ce sera des promoteurs locaux? Encore, on en parlait avec Michel tantôt à son émission. Je pense que oui, il y a effectivement un bassin potable localement, mais il ne faudrait pas surprendre qu'il y a des intérêts étrangers qui s'amèneraient ici. On ne parle pas d'un déménagement possible. Là, les anciens fans, puis les fafans des Nordiques, puis envoyez donc, je vous comprends. Non, je vous vois aller. Les pancartes, déjà, j'ai déjà vu des images à part de ça. On commence à faire des reportages. On vient, bien envoyez donc. Gars, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et de voir comment on s'est acharné dans le dossier des Coyotes de l'Arizona, je m'excuse, mais s'il y a un club qui doit déménager quelque part, on va regarder peut-être du côté du désert, puis pas ici dans la capitale nationale. On va regarder ça comme ça. Hâte de jaser avec nos invités. Hâte de jaser avec Antoine Pruneau. Une autre saison misérable. Il sera là pour nous commenter ce que lui a vécu. Watch out. Je pense qu'on va avoir une autre entrevue très intéressante venant du cœur. Renaud Lavoie va nous jaser justement l'actualité Ligue nationale de hockey. Mais avant, on va se mettre à table pour la rencontre ce soir avec Véronique Lossière, courtière immobilière, qui vous présente le Hockey des sénateurs à 19h05. DJ Smith, plus tôt aujourd'hui, s'adresse à nos collègues des médias, on l'entend.
Changes anticipated for tonight, coach?
Gambrell will go in, Broussard will go out, everything else stays the same.
Okay, and still comfortable with the line combinations that you flipped around on Sunday?
Yep.
I'm good, thank you. Matthew Joseph comes back for the first time. We had him, of course, 5 years, 6 years here. Assess where he's fit in with your hockey team and what he brings to the Senators.
Well, last year when he came, he was really good. He was, he was on every line, scoring, doing all those things. He's starting to do that now. It just hasn't gone in for him. But his energy level, his work ethic, and like I said, he just hasn't had the results this year so far, but we have the utmost confidence that it will in time. But he plays a real important role for us on the penalty kill, and he ups our team speed.
Just on you had Shabbat and Branstrom together. If you do that in a game, what would you like about it?
Well, they can move the puck. We've got to be able to get our guys the puck. We think we've got some forwards that can score, and we've got to be able to break the puck out. And you know, it's not ideal for Branny, for me on his offside. I think he shoots the puck a little bit better on the other side, but he can maneuver to the middle of the ice. In saying that, in the offensive zone, he can get to the middle of the ice and get some off there. But I think his ability to elude the forecheck with his skating is something that we're going to need.
You were saying the other, I think it was in Fort Lauderdale on Sunday, that you want to get Gambrell in there because he sat long enough. Does he also bring maybe a little bit more speed?
Yeah, he does. I mean, he can get up and down the ice. He can kill penalties. And he sat 8 games. He's a part of this team. And, you know, last 20 games last year, that was one of our best lines every night, was that line. We think Kostelec has taken such a step that we think we can move him up one line, and we think he can start playing a lot more against the other team's best players.
And what attributes do you see in Shane Pinto having the ability or being able to play between DeBrincat and Giroux?
Well, I think we've always known he can. It's just a matter of when we were going to put him there, and we're going to fast forward that clearly with the injury to Norris. And he's a guy that can defend against anyone. He can make plays. So we look for him to be a big part of that line.
Just, is there any update on, do you anticipate Talbot maybe later this week? Or is that?
Yeah, we're hopeful that over the next 2-3 games that he can get back. Obviously, that's a big loss for us. It's a lot of workload for Forsey. And you know, he's an all-star goalie last year in the NHL, and we look forward to having him back.
Ça me fait rire quand un coach nous amène on prévoyait le mettre là, puis on va voir ce qu'il est capable de faire. Non, on prévoyait le mettre là comme vous prévoyez mettre ce tout-là au centre à un moment donné. C'est les choses qui ont provoqué ces affaires-là. Dites-les comme du monde au moins. Bref, c'est correct. Pinto va avoir la promotion et on s'entend qu'il a sa touche offensive, puis il est capable, évidemment, d'amener justement la rondelle au filet. On espère qu'il sera un bon complément avec DeBrincat et avec Giroux. Puis Joseph, qui fait son premier retour à Tampa, bien, on verra s'il sera énergisé par l'émotion. Voudra bien faire. Un gars qui n'a pas marqué encore un premier but cette saison-ci, mais qui amène certainement sa touche, un peu à l'offensive, mais également côté vitesse. Alors, un bonhomme à surveiller ce soir. Au hockey, Véronique Lecier, les Sénateurs à 19h05, les Sénateurs contre le Lightning à Tampa. Parlons de l'actualité Ligue nationale avec notre ami Renaud Lavoie qui nous attend en bout de ligne. Renaud, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi, Nicolas.
Ça va super bien, merci. Alors qu'on apprend aujourd'hui que les Sénateurs sont bel et bien à vendre selon le site Sportico, ta réaction, ce n'est vraiment pas une surprise. Comment le tout va se résorber ou se compléter selon toi?
Le contraire aurait été surprenant.
Ouais,
donc,
c'est
on
ça,
nous avait
ça.
Dit l'équipe n'est pas encore à vendre. Du meilleur, disons, tout est à vendre dans la vie.
Oui.
Il suffit de sortir le bon montant.
Oui, oui.
Mais c'est malheureux, mais c'est ça pareil. Comment ça va se régler? Ça va se régler avec un groupe qui va arriver et qui va dire l'avenir des Sénateurs d'Ottawa est à Ottawa et nous n'avons aucunement l'intention de déménager. Donc, du moment à ça, c'est essentiel que ces paroles-là soient prononcées pour obtenir la franchise. Et évidemment, après ça, c'est au plus fort la poche. Parce que c'est exactement comme ça que ça va se régler. C'est vraiment le renouveau de cette organisation qui en a grandement besoin, qui est sur la bonne voie présentement pour justement réaliser de très grandes choses, que ce soit sur la glace ou encore à l'extérieur de la glace avec cet amphithéâtre qui fait rêver au centre-ville d'Ottawa sur les plaines de Breton. Alors, moi, écoute, c'est sûr que si j'avais quelques centaines de millions de dollars qui traînaient, je serais très, très, très intéressé par l'achat des Sénateurs d'Ottawa. C'est une tellement belle région, celle d'Ottawa. C'est une équipe qui est capable financièrement de faire ses frais. Et moi, je suis convaincu que l'avenir est très rose avec les Sénateurs. Puis, c'est la première fois depuis très longtemps que je m'exprime ainsi. Rappelle-toi, au cours des dernières années, j'étais pas nécessairement très positif, surtout par rapport à qui était le propriétaire de l'organisation. On voyait comment ça avançait, ou je devrais dire ça reculait. Et ça n'arrêtait pas de reculer. Et là, finalement, les nuages commencent à se dissiper là, tranquillement, pas vite. Alors, tu sais, Nicolas, oui, la franchise va se vendre. Là, maintenant, c'est combien? Est-ce qu'on peut penser à 700 millions US? Est-ce qu'on peut aller un peu plus haut que ça?
Avance ce chiffre, selon Sportico, à 655 millions, considérant que la dernière franchise a été payée 650, considérant que ce club-là regorge de jeunes, l'avenir prometteur, le projet des Plaines-le-Breton, à lui seul, doit valoir son pesant d'or pour une franchise comme celle-là. Ouais, alors, 655 millions, c'est un peu à la baisse.
Hein? Mais admettons qu'on y va à 700 millions, OK? Je pense que c'est un plus beau chiffre.
Ouais.
Si on y va à 700 millions, c'est quand même... c'est pas loin d'un milliard de dollars canadiens.
Ouais,
c'est ça la réalité. Ouais. Le dollar canadien, c'est pathétique là, de voir la valeur de notre monnaie. Puis, écoute, c'est sûr que ça aussi, ça a un impact. Tu sais, il y a des entreprises qui ont tenté d'acheter les Sénateurs au cours des dernières années. Mais quand on arrivait devant M. Melnyk, on offrait autour de 450 millions de dollars. OK?
Ouais.
Et à chaque fois, M. Melnyk, il disait qu'il n'en était pas question. Avec raison. Parce qu'aujourd'hui, force d'admettre que ça va être beaucoup plus que ça. Alors, il a toujours résisté à cette tentation-là de vendre, si tu veux, on va le mettre en gros guillemets, à rabais. Pourquoi les entreprises arrivaient avec des offres à rabais, c'est que tout le monde disait que M. Melnyk n'avait pas d'argent, n'était pas capable de payer ses comptes. Ce qui était faux, en bout de ligne. Parce que moi, on m'avait dit à la Ligue nationale, tant et aussi longtemps qu'il paye les intérêts sur les frais, qu'il fait ses remboursements, que sur les emprunts qu'il fait chez nous, on ne peut rien dire. Et il a toujours fait ses paiements. Alors, à partir de ce moment-là, comme une banque, là, quand vous avez votre maison, tant que vous faites vos paiements, votre maison est à vous. Wow. La journée que vous allez arrêter, vous avez 60 jours pour rembourser, sinon on vient saisir la maison. Ligue nationale de hockey, dites-moi une chose, c'est exactement la même chose.
Ah oui, puis ça a été un effet d'entraînement. Là. Je veux dire, n'importe quel petit lin a décidé qu'à un moment donné, M. Melnyk, qui a pas mal plus d'argent que 99,9% du monde qui nous entendent, et moi inclus, là, ben là, on a décidé qu'il n'y avait pas de mauditienne. Mais on a oublié de mentionner qu'il y avait encore des intérêts dans des real estate, oui, puis des compagnies pharmaceutiques, oui, et tout ça. Alors, je veux dire, à un moment donné...
Mais en même temps, le Centre canadien Tire, il l'a abandonné.
Ah oui.
Alors... dans le sens, quand je dis qu'il l'a abandonné, pas qu'il l'a abandonné dans le sens qu'il n'a pas mis une scène de rénovation là-dedans. Alors, ça aussi, ça paraît mal. Ouais. Quand les vestiaires sont les mêmes depuis que c'est l'ouverture du building, il n'y a pas rien qui a changé, la peinture est la même, ou pas loin, à un moment donné, c'est sûr que si tu es un éventuel acheteur, tu ne commenceras pas à offrir tu te dis, ce monsieur-là, il a besoin d'argent, puis vite.
Ouais.
Se sont essayés, ça n'a pas marché.
Ouais. On va voir ce qui va se passer. Hâte de voir la suite des choses, hâte de voir qui va se manifester. Je pense que des intérêts locaux, il y en a. Il y a le potentiel d'avoir des gens locaux qui peuvent embarquer dans cette affaire-là. Mais j'ai l'impression que ça va venir peut-être de capital venant de l'extérieur. Mais ceci étant dit, est-ce qu'on pourrait parler peut-être de la valeur des équipes qui, la moyenne maintenant, s'élève à plus d'un milliard de dollars? Et là, c'est encore, selon le site de Sportico, un site spécialisé dans les affaires sportives. Mais on voit que même, ben, je pense que la Ligue vient de passer au travers, puis encore une fois, est en train de fleurir devant nous. Là. Je veux dire, un milliard, il y a plusieurs propriétaires qui doivent se frotter les mains puis être contents en ce moment. Là.
Je vais je trouve ça exagéré.
Ah ouais, hein?
Un milliard, une moyenne d'un milliard de dollars américains pour des franchises de la Ligue nationale de hockey, là, on va prendre notre gaz égal, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est plate, là. C'est plate de dire ça, là. Tu sais, quand je vois, par exemple, les Canadiens de Montréal à 1,7 milliard. Non. Non, non, non. Non, non. C'est plate, là. C'est pas 2 milliards de dollars canadiens que ça vaut. Je dis pas que ça vaut pas 1 milliard et plus, mais ça en vaut pas 2 milliards canadiens. Non. Ça, je te le garantis. Alors, à partir de ce moment-là, tu sais, c'est dur aussi d'y aller avec un montant précis d'une franchise. Parce que c'est tant... quelle est la valeur d'une franchise? On ne le saura jamais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas...
tant que tu n'ouvres pas les livres.
Mais c'est ça. T'sais, les Penguins de Pittsburgh n'ont pas été vendus 1 milliard de dollars. Je dis ça comme ça, là. L'une des meilleures franchises depuis 1991. C'est celle qui a remporté le plus de coupe cette année depuis 1991. Alors, si eux ne valent pas 1 milliard de dollars américains, Je vais te dire, il y en a une gang là, d'équipes qui ne valent pas un milliard de dollars américains aux États-Unis. Là.
Oui, mais ça, bon, doit dépendre aussi, ça doit dépendre aussi de la valeur dans le marché dans lequel est-ce qu'il y a une compétition?
Aucun doute. Je veux dire, mais est-ce que les Blues de Saint-Louis, où j'étais il y a encore ce matin, valent un milliard de dollars? Absolument pas. Même si on gagnait une coupe cette année, il y a 3-4 ans, je peux te faire la liste des équipes qui ne valent pas un milliard de dollars. Là. Hey, la liste est extrêmement longue. Je peux te faire la liste des équipes qui valent un milliard de dollars. Oui, les Rangers. Oui, les Canadiens. Oui, évidemment, les Maple Leafs.
Chicago.
Les Bruins. Chicago. Après ça, ferme les livres. Il n'y en a pas une qui vaut au-dessus d'un milliard. Alors là, après ça, on nous dit 1,7 milliard pour les Canadiens. Un peu, là, 1,7 milliard pour les Canadiens de Montréal. Si tu m'avais dit 1,35, 1,4, j'aurais dit, OK, là, tu vas me dire, Renaud, c'est quoi la différence entre 300 millions? Mais 300 millions, c'est beaucoup d'argent, là. Je veux dire, c'est Jeff Molson a payé ça 500 millions. Donc, c'est plus de la moitié de ce qu'il a payé. Je dis Jeff Molson et son consortium, là, parce que c'est pas lui qui a payé la somme complète.
Ouais.
Mais, d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on peut se dire que l'investissement que M. Molson a fait il y a une dizaine d'années, douzaine d'années, rapporte? Aucun doute là-dessus. C'est un des meilleurs investissements qui a eu lieu dans le sport professionnel au cours des 10-12 dernières années. Là-dessus, là, chapeau, bravo. Bon, maintenant, la valeur. Est-ce que c'est 1,7? Est-ce que c'est 1,2? Est-ce que c'est 2 milliards? On ne sait pas. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui cogne à la porte en disant, moi, je suis prêt à l'acheter à tel montant. À partir de ce moment-là, c'est très difficile. C'est que ce qui a tout changé les données, c'est quand à Los Angeles, les Clippers ont été vendus 2 milliards de dollars alors que ça ne valait pas 2 milliards de dollars. Et là, ça a excité un peu tout le monde en disant, ah ben tabarouette, si les Clippers valent 2 milliards,
ouais,
la Ligue nationale... Non. Le basketball, c'est une chose. La Ligue nationale de hockey, c'en est une autre. Mais si tu me dis qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le lendemain de l'Halloween, que les équipes de la Ligue nationale de hockey, en moyenne, valent 1 milliard de dollars, je te dirais que c'est complètement faux. Peut-être autour des 800, 850, tu vas me dire, encore là, Renaud, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas une grosse différence. 1 milliard de dollars, c'est énorme pour un produit qui, je le répète, là, ne pogne absolument pas aux États-Unis. Il pogne de façon régionale. Mais juste pour les gens qui nous écoutent, là, faites attention, là. Gardez les deux mains sur le volant, là, parce que j'ai toute une statistique pour vous. Le sixième match de la finale de la Coupe Stanley, où l'Avalanche Colorado a soulevé la Coupe Stanley à Tampa, a été vu par 5 millions de personnes, 5 millions et demi de personnes à ABC, OK?
Ouais.
Au mois de juillet. Whatever, c'était au mois de juillet ou fin juin, peu importe. OK? Il a été vu par 5,5 millions de personnes. Le premier match préparatoire du Pro Bowl, du temple de la renommée de la NFL, un match préparatoire le 4 ou 5 août, a été vu par 500 000 personnes de plus. Ça veut dire qu'un match qui veut rien dire entre les Jaguars, puis je me rappelle même plus c'est qui l'autre équipe, avec des joueurs dans les deux équipes qui ne joueront même pas pendant la saison dans la NFL, a fait plus que le match où la Coupe Stanley a été soulevée. Posez-vous pas de questions, là. C'est même pas proche. Il y a le gap qui existe entre la Ligue nationale de hockey et la NFL. C'est comme si quelqu'un construisait une montagne, puis à toutes les années, il augmentait ça de 100 mètres. Puis que l'autre en arrière, il n'est pas capable de monter plus que 10 mètres, là. C'est incroyable la différence qu'il y a pour toutes sortes de raisons. Vous allez me dire, ah, le baseball, c'est la même chose, c'est pas vrai. La NBA, ça va super bien. Regardez les droits de télé, en plus, qui vont signer prochainement. C'est des ligues là, qui s'en vont, là. C'est comme des fusées qui explosent. Là.
Ouais.
Il y a plus de monde qui ont regardé le match des étoiles de la MLS que le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey aux États-Unis. Alors,
ça remet les choses en perspective.
Parlez-moi pas de valeur d'un milliard de dollars là, pour une franchise de la Ligue nationale de hockey. C'est utopique. Je ne dis pas que dans 5 ans, ça ne le sera pas. Présentement, à l'heure où on se parle, dans le mai d'Halloween 2022, C'est pas vrai, ça. Puis c'est pas vrai que le Canadien vaut 1,7 milliard de dollars américains. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça se peut pas.
Des propos qui ramènent tout le monde sur le plancher des vaches. On va cesser là-dessus. On va souhaiter bonne chance aux Canadiens qui visitent le Wild au Minnesota. Renaud Lavoie, on se dit à jeudi. Bonne fin de soirée, mon ami.
Porte-toi bien, Nicolas.
Renaud Lavoie, mesdames, messieurs, que vous pouvez entendre deux fois la semaine sur nos ondes à 17h40 de les mardis et les jeudis. Si j'avais une gageure à prendre, là, un vieux deux, là, sur qui va perdre son poste en premier dans la Ligue nationale de hockey, je parle d'un coach, hein? Sheldon Keefe. Je pense qu'on est rendu là. Le message semble plus passer bien, bien entre lui et son vestiaire. Quand tes gros noms commencent à t'ignorer, quand c'est toi qui parles, mais avez-vous les images? C'était avant hier, ça. Quand Sheldon Keefe demande un temps d'arrêt, puis il n'y a pas grand monde qui regarde de ses gros noms. Juste comme ça. Quand le message ne passe plus. Est-ce que c'est le baiser de Judas? Mais là, la sous-question, si jamais on doit procéder à un changement derrière le banc des Maple Leafs, est-ce que ça se fera? Ça se fera, pardon, dans un one-two punch? Parce que M. Dubas, à moins de me tromper, lui aussi sur une corde raide, est-ce qu'en devant procéder à un changement, et je disais, si on doit y aller, est-ce qu'on va laisser Carl Dubas procéder à ce changement ou on va tout simplement changer également le directeur général? Mystère et boule de gomme à suivre. 12 matchs ce soir, Ligue nationale de hockey, avec à 19h le match qu'on vous propose sur nos ondes. Le hockey Véronique Lecier des Sénateurs contre le Lightning à Tampa Bay. L'avant-match du CECCE. C'est à 18h30. Faisons un peu le bilan de cette autre saison de misère. Je pense que j'apprends rien à personne pour le rouge et noir. Ça doit être très, très difficile, encore plus pour notre prochain invité, Antoine Pruneau, qui, lui, a grandi avec ce club-là, a le logo tatoué sur le cœur, puis cette année devait faire encore plus mal que d'habitude. Antoine, comment vas-tu?
Ça va pas mal. C'est sûr qu'on a déjà la saison lentement. Ça peut être une saison facile, comme tu l'as dit, mais je m'accroche à d'autres choses que juste le football. Mais c'est sûr que côté football, c'est difficile en ce moment.
C'est-tu la... Comment je pourrais dire ça? C'est-tu l'année de trop pour toi?
La quoi, excuse-moi?
L'année de trop, l'année qui a fait... Je veux dire, comme un point d'écœurement, je sais pas. Là. Parce que combien de fois on s'est parlé, Antoine, là, puis combien de fois on t'entendait prendre la cause à cœur, puis l'année passée, en préparation de cette année, les espoirs étaient tellement gros, puis cette année, vivre encore la même affaire, tu dois atteindre un certain niveau d'écœurement. Là.
Ah non, c'est sûr, c'est carré de perdre. Écoute, c'est une des plus décevantes, c'est sûr. Je pense que d'autant plus le niveau de talent qu'il y avait dans cette équipe-là, c'est encore plus un peu inexplicable, si je peux, dire. Mais je suis extrêmement déçu là, de la tournure des événements cette année, c'est certain. Puis je trouve que c'est pas digne là, de ce qu'on a fait, du prestige que ce club-là avait là, dans les années précédentes.
Mais réglons ça tout de suite. N'eût été de la blessure à Mussoli, est-ce que ce club-là est bien meilleur? Est-ce que ce club-là connaît un tout autre châtiment cette année?
Ah, écoute, c'est sûr que ça nous a fait vraiment mal, mais tu sais... C'est jamais dans les mains d'un seul homme. Fait que où est-ce qu'on serait rendu, je ne sais pas. Mais tu perds ton carrière partant, ça fait extrêmement mal. Le niveau de confiance diminue un petit peu. Puis je pense qu'on a été dans une meilleure... quand tu regardes tous les matchs qu'on a perdus par peu de points, c'est le genre d'homme qui fait une différence là, dans ces matchs-là, c'est sûr et certain. Mais on peut pas. Je pense pas que c'est une excuse de perdre son carrière pour expliquer, mettons, la fiche qu'on a présentement. Là. On devrait quand même être en meilleure posture que... Alors, ce que l'on a été.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon toi? Qu'est-ce qui manquait à cette formation-là?
Ben écoute, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais justement, quand on a perdu notre carrière aussi, on a perdu un petit peu de leadership. Je pense que notre méthodologie n'était pas nécessairement la bonne tous les moments cette année. Je pense que le niveau de compétition et le travail qui a été fait était bon. Pour cette équipe-là, elle travaillait extrêmement fort pour être performante, mais est-ce qu'on a travaillé de la bonne façon à tous les moments? Je pense qu'il y a définitivement des trucs qu'on doit améliorer dans notre façon de faire. Puis c'est le processus qui est en train d'être adressé. J'ai senti un bon regain d'énergie en fin d'année. Je pense que cette équipe-là a des chances de retourner dans la bonne direction, mais il va falloir continuer à faire le travail pour s'assurer que ça fonctionne.
Parmi les points tournants puis les perturbations que vous avez connues, ben parlons évidemment du congédiement de Paul Laporte, puis Bob Dice, qui a le titre d'intérimaire jusqu'à preuve du contraire en ce moment. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Paul Laporte, puis qu'est-ce que vous avez peut-être retrouvé plus avec Bob Dice?
Écoute, je pense que Paul était rendu dans une situation quand même difficile. Là. On a perdu plusieurs matchs en ligne. Des fois, c'était explicable, d'autres fois, c'était inexplicable. Fait que je veux pas mettre ça comme tout dans les mains d'un seul homme, mais pour moi, j'aimerais mieux vanter le travail de Bob Dice. Écoute, moi, ça fait plusieurs années là, que je travaille avec lui sur l'unité spéciale. Puis le niveau de compétition que ce gars-là amène, le désir de vaincre, à quel point les gars veulent se battre pour lui, c'est inégalable. C'est un individu extrêmement spécial. Je pense que son passage aussi, tu sais, le fait d'avoir travaillé avec un gars comme Rick Campbell aussi, qui est un excellent coach, j'ai appris beaucoup de lui. Puis ça faisait un beau mélange de la version Bob Dice de Rick Campbell et le fun. C'est un gars qui est extrêmement travaillant, organisé. On avait plus de périodes de compétition là. Unité 1 contre unité 1 avec un enjeu à chaque pratique, je pense que ça nous a aidé. Ça s'est pas toujours transformé en victoire, mais par exemple, j'ai eu une bonne intensité sur le terrain quand il était là. Puis pour ce qui est de Paul, moi, ce que je trouve qui était plus difficile, c'est que je pense qu'il s'en était mis beaucoup sur les épaules à être coordinateur offensif en plus d'être entraîneur-chef. Puis justement, peut-être d'avoir tout ce... Puis malgré ça, vouloir quand même s'ingérer un petit peu dans ce qu'on fait en défense, s'ingérer un petit peu dans ce qu'on fait sur le pied spécial. Puis je pense que l'assiette est rendue un petit peu grosse pour lui à ce moment-là. Mais tu sais, c'est un bon guerrier, c'est un gars pour qui j'ai quand même eu du plaisir à travailler. Mais je pense que le changement d'air à ce point-ci dans la saison a fait du bien.
Tu peux plus faire ça de nos jours, avoir deux postes névralgiques comme ça. Tu peux pas faire les deux.
Écoute, moi, j'aimerais pas être dans ces souliers-là, j'aimerais pas avoir à le faire. Surtout si tu es quelqu'un qui ressent le besoin de voir un peu ce qui se passe partout. Puis je pense que tu te dois de faire ça quand tu es un entraîneur-chef, là, d'avoir tourné un petit peu partout. Mais si tu as fait ça pendant des années, puis c'est du monde avec qui tu as travaillé. C'est pas comme si notre staff, c'était des gars que ça faisait tout 20 ans qu'ils travaillaient ensemble. Ouais. Là, à ce moment-là, peut-être que ça se fait, là, parce que le niveau de confiance est à 1000%. Mais quand c'est des nouveaux gars qui travaillent tous ensemble, de vouloir faire ça, je pense que c'est un petit peu difficile. Puis je vois pas pourquoi c'est nécessaire de faire ça. Il y a assez de monde compétent dans cette ligue-là qu'on devrait trouver assez de gens pour mettre en poste, pour qu'il y ait un... Chacun a son rôle.
Pourquoi vous n'êtes pas capable de gagner à la maison?
C'est la même question que je me fais poser à chaque fin d'interview. Pour moi, tu sais, je pense pas...
C'est pas ma dernière question, mais coudonc.
Non, mais je pense pas vraiment qu'il y a un lien avec la maison ou pas à la maison. La réalité, l'année, c'est qu'on n'en gagne pas beaucoup de matchs de football, tu sais. Que ce soit à maison ou pas à maison... Je pense que c'est quasiment juste un add-on qu'à la maison, ça, on n'a pas gagné, mais on ne gagne pas beaucoup de matchs de football, ça finit là. Après ça, qu'est-ce qui se passe à la maison? Je ne peux pas croire qu'il y a un niveau supplémentaire, une pression sur les épaules, j'aurais de la misère à voir ça. Moi, je trouve ça motivant de jouer devant notre foule. Je n'ai pas l'explication pour ça, honnêtement.
C'est important pour toi de demeurer avec le rouge et noir. C'est important. Un, est-ce que tu as été échaudé par la dernière période? C'est-à-dire qu'on t'a retiré un peu ton poste de partant. Tu as eu à te reprouver. Puis, je veux dire, ça a-tu été frustrant à ce niveau-là pour toi?
J'ai aucune rancœur envers le fait qu'avant le début de la saison, on ne voyait plus nécessairement comme un partant. Moi-même, j'avais des points d'interrogation à ce point-là sur où s'en allait ma carrière. Je pense que j'avais une année 2021 difficile. J'avais besoin de refaire mes preuves. Est-ce que je les ai faites auprès de l'organisation? Je ne sais pas, mais pour moi, en ce moment, ma confiance est gonflée à bloc. J'ai vraiment aimé mon année. Physiquement, j'ai trouvé que ça a été une bonne année. J'ai réussi à jouer la game physique puis rapide que j'ai faite dans le passé. Je pense que j'ai eu des bons flashs en défensive. J'ai eu une bonne rétroaction de la part de la plupart de mes coachs. Je ne sais pas où est-ce qu'eux me voient, mais au début de l'année, j'avais pas de problème avec ça. C'est sûr que la saison avance à un moment donné, puis on gagne pas beaucoup de matchs de football, puis t'aimerais ça être plus impliqué. C'est toutes des choses qu'on a adressées, puis on va voir c'est quoi que la direction de l'équipe veut faire à ce moment-là. J'ai l'impression que j'ai encore ma place ici. Puis pour moi, t'sais, peu importe ce qui arrive, les Red Blacks, ça va toujours être mon équipe. Là. Il y a rien qui va changer à ça, mais c'est sûr que j'ai une porte ouverte là, à voir... C'est quoi le plan de match pour moi? Puis j'espère que de tout cœur que ça se continue ici. Puis je vais tout faire pour que ça se passe avec les Red Blacks c'est sûr et certain.
Tu n'as pas commencé à négocier encore?
Ben écoute, on négocie à tous les jours. À chaque fois que tu es sur le terrain, c'est une négociation, c'est de montrer que c'est toi le meilleur sur le terrain. Mais on n'est pas rentré dans aucune spécifique, mais tu sais, tu connais un peu ma personnalité, fait que je lance toujours, je lance des perches à tous les deux jours, je leur lance un petit commentaire mais pour voir, bon, qu'est-ce qui se passe?
C'est toi qui négocie pour toi, t'as pas d'agent toi là, hein?
Non, je suis mon propre agent depuis, je pense mes quatre premières années, j'avais un agent qui a fait un super travail, j'ai beaucoup appris de lui. Puis, étant donné que je négociais tout le temps avec la même équipe, pour moi, après ça, c'était important de le faire sur l'extrême marque de respect, de se parler de face à face. Je pensais pas qu'on avait besoin d'un intermédiaire. J'avais peur que ça nuise aux relations. Fait que j'ai toujours fait comme ça. Si jamais ça en venait au fait que j'avais besoin d'un agent, je le ferais peut-être. Mais pour l'instant, j'aime ça gérer ça moi-même, là. Puis c'est pas comme si, tu sais, y a pas mille clauses différentes que tu peux mettre dans nos contrats, là. Ça reste assez simple. Faut que tu suives ce qui est établi dans notre convention. Fait que pour l'instant, je suis très confortable de le faire. Puis écoute, l'année passée, j'ai négocié trois fois mon contrat. Fait que une fois avec Marcel, une fois avec Jérémy, puis une fois avec Sean. Fait que je commence à être pas mal à l'aise à faire ça.
Antoine Bruno, agent de joueur.
Ah, écoute, je te mentirai pas que je donne des conseils à gauche, à droite.
Oh, j'en doute pas.
Mais c'est pas ma perspective pour l'instant. Je vais me concentrer sur le jeu au football.
La poursuite de ta carrière se fait-elle absolument avec le rouge et noir ou tu es peut-être ouvert pour une autre avenue si jamais ça ne fonctionne pas ici?
La porte est ouverte à aller ailleurs, mais c'est pas une grosse porte présentement. Là, comme je veux donner toutes les chances au rouge et noir puis à moi-même de qu'on s'entende. Ils sont de loin. Ils ont eu une grosse longueur d'avance sur les autres équipes, c'est sûr. Par exemple, je te dirais que par rapport à l'avancée, où c'était comme ça me prend un contrat avec cette équipe-là, à tout prix, je veux leur montrer ce que je sais faire. Je te dirais que j'ai un petit peu plus d'ouverture d'esprit, mais c'est pas grand-chose. Puis, ça serait extrêmement difficile pour moi de quitter cette équipe-là pour une autre équipe.
Faut qu'on cesse là-dessus, mais maudit, j'aimerais ça poursuivre la discussion. Je peux-tu te rappeler cette semaine pour un autre sujet? Faut que je te parle, Ordon. Fait que si tu connais, je t'appelle.
Ok, parfait, on s'en
reparle en ordre. Merci, puis je te réinvite n'importe quand dans le vestiaire, mon cher ami. Entre-temps, ben, repose-toi, c'est grandement mérité, en espérant qu'on puisse annoncer ton retour avec la formation au plus sacré.
All right, ça marche.
Merci Antoine, salut. Je te rappelle bientôt. Antoine Pruneau, mesdames, messieurs du Rouge et Noir, toujours plaisant de lui parler. On s'en va une pause au retour. Version à côté du vestiaire, mais tellement intéressante. Il y a du basketball avec Rosanne Jolie, entraîneur-chef du programme féminin de basketball de l'Université d'Ottawa. Mais juste avant, on parle des 67 d'Ottawa avec Martin Dagenais dans quelques instants. Dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale.
L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens compte parmi ses membres des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Ce sont ceux et celles qui aident les enfants d'âge préscolaire à apprendre, à chanter et à se faire des amis, tout ça en français. Au tout début du cheminement scolaire de nos jeunes franco-ontariens, il est bon de savoir qu'ils sont entre de bonnes mains. En cette journée de la reconnaissance des travailleurs et des travailleuses du domaine de l'éducation de la petite enfance, nous leur disons merci. Merci d'être une valeur sûre pour nos enfants.
Encore une fois cette année, Desjardins démontre son soutien aux entrepreneurs des quatre coins du pays en remettant à 150 petites entreprises une bourse Good Spark Desjardins de 20 000 $ chacune. Desjardins est à la recherche d'entreprises qui favorisent l'innovation, le développement durable, l'emploi et qui ont un impact dans leur communauté. Vous avez jusqu'au 6 novembre pour soumettre votre candidature ou encourager une petite entreprise à le faire. Inscrivez-vous pour une bourse Good Spark Desjardins en visitant lebourse-goodspark.ca.
Bon, ça c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis, de la carpette, les vitres sont neuves, les électros sont inclus. Je sais pas quoi là, je vais à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. As-tu des questions?
Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir Véronique Lecière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308.
Jacques Martin, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
Jacques, on va retrouver jeudi pour notre prochain rendez-vous. Vous êtes dans le vestiaire version écourtée. À 18h30, on fera place à l'avant-match du CECCE. Par la suite, c'est le hockey Véronique Lecier, des Sénateurs. Les Sens sur la route contre le Lightning à Tampa Bay. Il y a une formation qui va très, très bien. Après 11 matchs, seulement une défaite. Et au classement national, au hockey junior, sont maintenant 6e. On parle des 67 d'Ottawa avec Martin Dagenais. Martin, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va très bien, merci. Est-ce qu'on porte toujours une attention au classement national? Pour vous autres, c'est juste un petit nanane comme ça?
Pour être honnête, là, je ne savais même pas qu'on était 6e. Donc, non, pas pire, puis choix. Je pense que Dave, c'est pas le genre à vérifier ça. Puis moi, je vais vérifier de temps en temps là, pour le fun, mais non, tu m'apprends ça aujourd'hui qu'on était 6e. Wow. Puis je peux même pas te dire quelle position qu'on était dans la semaine dernière.
Ça a le mérite d'être clair, mais c'est pas pire comme ça. Mais écoute, 11 matchs de jouer, vous avez seulement une défaite et c'était contre Peterborough, marque de 5-3. Vous avez très bien rebondi en emportant 6-1, façon décisive contre Sault Ste. Mary. Qu'est-ce qu'on retient justement ces deux performances-là, puis votre première défaite là?
Ben, les deux matchs, on a fini avec, je pense, 20 lancés de plus que notre adversaire. Donc, c'est le fun parce qu'à la maison, je trouve qu'on joue avec encore plus de confiance, même si on n'a pas perdu encore sur la route. Mais Peterborough, c'est ça, on a pris l'avance 2-0. On a perdu notre meilleur compteur, Jack Beck, là, lors de sa première présence sur la patinoire. Blessure au haut du corps. Je sais pas si ça nous a fait mal ou si ça allait affecter les gars. Parce qu'on l'a perdu l'an dernier, puis c'était très difficile là, quand il a quitté, mais on n'avait pas, je te dirais, la même profondeur, la même expérience. C'est ça, autant qu'on a peut-être eu plus de lancers que Peterborough, je pense pas qu'on a joué le match qu'on voulait jouer. Puis je te dirais que dimanche contre Sault Ste. Mary, c'était fort probablement notre meilleur match de l'année. On a très bien rebondi. Complètement dominé le match, puis c'est ça, remporté une victoire de 6-1.
Comment êtes-vous différent sans Jack Beck?
Ben, c'est un gars qui... il va chercher à peu près 1,5 points par match. Donc, en partant, tu scores peut-être un but de moins par partie lorsqu'il n'est pas là. C'est notre joueur de premier plan côté là, fabricant de jeu sur l'avantage numérique. Là, c'est, tout passe par lui. Moi, je pense que c'est là qu'on va le manquer le plus, même si notre avantage numérique est encore premier dans le circuit. C'était un gars l'an dernier là, qui comptait à profusion. Cette année, c'était beaucoup de marqueurs d'assistance. Mais tu sais, les points, que ce soit un but ou une passe, là, c'est pas quelque chose d'important pour nous. Là. On veut juste des jeunes là, qui sont en mesure de produire offensivement. Puis je pense que lui peut générer. Puis ça, c'est à peu près avec n'importe quel coéquipier de n'importe quelle ligne avec qui il va jouer. C'est un gars qui va produire et qui, en même temps, est très fort défensivement.
C'est une équipe, donc, qui aura besoin d'un apport offensif accru de certains joueurs. Est-ce qu'on peut parler du premier cette saison de Chris Barlas et son potentiel cette année?
Oui. Chris, c'est certain que pour moi, là, c'est un kid que j'aime beaucoup. Tu sais, c'est un franco-ontarien d'Orléans. Puis c'est un gars qui défonce à toutes les pratiques, mais c'est pas un gros bonhomme. Qui a joué pas mal au centre toute sa vie, puis depuis que Dave l'a muté à l'aile gauche, malgré, comme je te dis, là, c'est pas un gars, je te dirais qu'il est 5 et 8, 5 et 9, c'est un gars qui a beaucoup de combativité, qui travaille fort, qui a pas peur d'aller dans les coins. Je pense que c'est un style de jeu ou un rôle, je te dirais, à l'aile gauche qui convient mieux qu'au centre. Puis depuis ce temps-là, ben c'est ça, il nous donne du meilleur hockey, on le fait jouer davantage. Je pense qu'il a mérité son but. Là. Je pense qu'il a fini avec 6 lancés au but dimanche, qui était un sommet là, pour notre équipe.
C'est particulier votre club parce que vous êtes premier au classement général, ben, au classement dans l'Est. Puis si on regarde le classement pour les meilleurs pointeurs, votre meilleur pointeur, Luca Pinelli, est 19e dans tout ça. Est-ce qu'on peut parler d'un club qui travaille en groupe? Club, c'est une histoire d'équipe, c'est pas l'histoire de seulement un joueur, les succès des Flames, des 67 en ce moment?
Oui, 100%. Puis, tu sais, moi, ça a tout le temps, moi, personnellement, quand j'étais dans le junior, c'était un peu pareil. On était tout le temps premier ou deuxième au classement, on n'avait jamais personne dans les meneurs pour les points. Dave, autant que... Certains vont dire que Dave Cameron, c'est un coach qui est très axé sur la défensive. Puis oui, c'est vrai, mais notre réponse à ça, nous, c'est tout le temps, ben, pour avoir la rondelle, il faut que tu sois fort défensivement. Puis pour marquer des buts, ça te prend la rondelle. Donc, un va un peu avec l'autre. On se rappelle un coach comme Jacques Martin qui se faisait des fois presque crucifié là, parce qu'on disait que c'était un gars qui qui pratiquait vraiment un jeu défensif hermétique, mais je pense deux ou trois de ces années-là, son équipe finissait premier d'un but pour dans la ligue.
Il nous le rappelle souvent quand on lui parle de ça.
Non, mais tu sais, c'est souvent des gens qui, je veux pas dire qu'ils connaissent pas le hockey, mais des fois, c'est des gens qui pensent pas beaucoup à l'importance d'être bon sans la rondelle puis tout ça, parce que c'est ça qui mène à l'attaque après. Donc, avec Dave, c'est vraiment ça. C'est de faire jouer les gars. Tu sais, moi, je regarde mes défenseurs. Il n'y a personne qui joue en bas de 12-13 minutes par match. C'est rare, là, à part de Jack Mathieu, de temps en temps, que quelqu'un va jouer plus que 24-25 minutes par match. Donc, tout le monde se fait impliquer. Tout le monde... c'est vraiment un travail collectif, puis tu as raison. Puis, je pense pas qu'on a du superstar. Je comprends qu'on a un gars comme Tyler Boucher qui est un choix de première ronde, mais je pense qu'on s'entend que Tyler Boucher, c'est pas un gars qui était repêché en première ronde pour marquer 50 buts. Là.
Ouais.
Je pense que les Sénateurs l'ont repêché pour un rôle précis. Non, c'est certain que c'est le fun quand ça vient de tout le monde. Puis je te l'ai dit, je pense à deux ou trois reprises, qu'on s'attendait pas à un début de saison de la sorte, pas cette année en tout cas. Mais en même temps, on espère que ça va continuer.
Les succès que vous avez, ça change un peu vos plans pour cette année?
Falloir que tu demandes à James Boyd. Puis James Boyd parle super bien français, ça gêne-toi
pas. Ah, es-tu sérieux? Ah, je savais pas ça.
Ouais, c'est le fun, ouais, ça, ok. Il parle super bien français. Une bonne fois, là. Je te dirais que le plus qu'on gagne...
T'es quasiment en train de me dire, t'as hâte qu'on passe à d'autres choses?
Non, mais c'est parce que mes joueurs de 19-20 me posent souvent la question. Tu sais, c'est quoi le plan de l'équipe? Puis en bout de ligne, moi, je suis un entraîneur adjoint.
Ouais.
Moi, je leur dis tout le temps, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est de gagner le plus de matchs possible. Puis, à ce moment-là, que ce soit au mois de décembre ou début janvier, ben James a quand même une réputation comme étant un des meilleurs gérants dans l'OHL. Là. S'il pense qu'on a une chance d'aller loin, ben, je pense qu'il va faire qu'il va compléter les transactions qui vont pouvoir nous aider à ce moment-là. Mais si l'équipe joue pour 500, je te dirais, dans le prochain mois, ben peut-être qu'il va se dire, ben on n'est peut-être pas encore rendu là. Donc, je te dirais qu'on ne s'attendait pas à devoir se poser ces questions-là. Mais je comprends aussi les gars comme Jack Mathieu, Paolo Boucher, nos gars de 20 ans, Cam Tourney puis Anthony Constantini, qui eux, ne seront pas de retour l'an prochain. Puis j'ai dit Boucher puis Mathieu parce que c'est des gars qui devraient jouer dans la Ligue américaine à 20 ans. Hein. Donc, tu te mets dans leurs souliers, tu as 10 victoires, tu as une défaite, tu espères que l'état-major du club se dise « OK, on y va ». Puis je pense que si moi je serais à ma dernière année dans le junior majeur, j'aurais un peu la même pensée, la même idée en tête.
J'imagine. Alors, un beau problème, comme on dit, puis c'est le fun de voir ça. Alors, hâte de voir comment le directeur général, qui parle très bien français, tu me mets des idées en tête. Alors, on va garder ça en tête. On va y parler un moment donné. Écoute, vous avez deux matchs en 20 semaines à domicile. Peterborough, encore une fois, puis Barry. Si on faisait le plan de match pour les deux formations, ben pour ta formation, ces deux formations-là, ce serait quoi?
Ben c'est deux formations quand même assez semblables, là. Deux formations qui comptent sur trois excellents trios avec une quatrième ligne quand même assez énergique, mais deux équipes qui défensivement sont bonnes, mais manquent un peu de profondeur, pas excellentes. Donc, mais c'est au début de l'année, là, dans la prédiction des experts, c'est deux équipes qu'on voyait dans le top 4. Nous, on était supposé de se battre pour peut-être le 4, mais plus 5-6. Donc, sur papier, ils ont peut-être un petit avantage sur nous, mais je m'attends à deux matchs là, très serrés. Là, puis, c'est ça va être vraiment de continuer à jouer de la même façon là, pour nous, là, fermer le jeu puis profiter de nos chances en zone offensive et espérer que nos unités spéciales continuent à faire le travail.
Et on invite les gens à aller vous encourager au parc Lansdowne, vendredi contre Barrie et samedi contre Peterborough. Martin Dagenais des 67, toujours un plaisir de te parler. On se dit à la semaine prochaine. Bonne fin de soirée.
Merci, Nicolas.
Martin Dagenais, mesdames, messieurs, des 67 d'Ottawa, un autre de nos collaborateurs. Grosse équipe de collaborateurs sportifs, la meilleure, la plus grande à part de ça dans la capitale, c'est chez nous dans le vestiaire. On va parler avec Rosanne Joly dans quelques instants de basketball. Il y avait la date limite des transactions aujourd'hui en NFL et certaines formations ont bougé. Certains ont surpris. Est-ce qu'on peut surprendre du passage de Chase Claypool aux Bears? Les Steelers reçoivent un choix de deuxième ronde. Je comprends que les Steelers, ça ne soit pas nécessairement la puissance. On va préparer l'avenir, mais là, il passe aux Bears. C'est pas nécessairement la puissance non plus. Alors, je ne sais pas si Chase Claypool est content. Je ne sais pas si les partisans des Bears sont contents, mais on lui dit meilleure chance, la meilleure des chances avec sa nouvelle formation. Notre prochain invité se prépare pour le début de la saison pour sa formation. On parle du programme féminin de basketball des GGs de l'Université d'Ottawa avec un énorme plaisir. On va parler avec l'entraîneur-chef, notre collaboratrice, Rosanne Joly. Rosanne, comment vas-tu?
Je vais super bien. Merci. Le plaisir pour moi. Hein?
Ah, ben, c'est le plaisir. Et pour moi également, tabarnouche. Mais écoute, là, la semaine, comment ça se passe pour vous autres? Parce que là, ça débute le 4 pour vous autres là, contre McMaster's. C'est-tu particulier comme feeling ou on gère un peu la nervosité d'une façon spéciale?
La nervosité, oui. T'as mis le bas dessus. Les filles, là, c'est beaucoup d'excitement. La nervosité. En plus, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de matchs de pré-saison, on s'attendait à avoir un voyage au Japon au mois d'août, jouer contre 4-5 équipes professionnelles. Puis là, il y avait eu l'ouragan à l'île du Prince-Édouard qui a ralenti un peu nos autres matchs. Donc oui, beaucoup d'excitement, de nervosité, un mélange de tout.
McMaster's et York pour débuter le nouveau calendrier. Est-ce qu'on parle de puissance dans l'échiquier? On devrait les retrouver où au classement, eux autres?
Ouais, c'est difficile à dire encore là, les puissances là, avec l'année COVID. On sait pas encore à 100% tous les aliments. Il y a encore comme beaucoup d'ajustements à faire de ce côté-là. Mais McMaster, définitivement, notre premier match ce vendredi, McMaster devrait se retrouver à la tête. Ben, pas nécessairement à la tête, mais dans les meilleures équipes de l'Ontario. York, ils ont une philosophie, ils ont des valeurs vraiment de combattance. Là, ce sera pas facile les deux matchs. On espère quand même de finir le week-end avec deux victoires, par contre.
Bien, certainement. Puis, Rosanne, tu nous avais parlé dans la préparation que tu voulais installer un système de jeu particulier. Puis, tu disais qu'avec l'apport de nouvelles joueuses, c'était peut-être difficile de faire assimiler ça rapidement. Comment ça s'est passé et où est-ce qu'on est on en est justement dans l'assimilation de ton programme, pardon?
Oui, merci de demander. Pour vrai, dans les derniers jours, on a vu vraiment une augmentation du rythme de jeu. Il y a encore des lectures difficiles à faire, mais comme je l'avais expliqué la semaine dernière, c'est ça, ça peut prendre 1 à 2 ans avant que les athlètes qui seront encore là l'an prochain soient complètement confortables avec toutes les lectures possibles. C'est une décision que j'ai prise. Je pense que c'est le temps de changer. De toute façon, de la structure, c'est une vieille structure avant, donc ça s'en vient, ça va prendre du temps, la saison est longue, encore une fois, on espère avoir notre pic là, vraiment vers la fin de la saison pour les jeux, pour les séries éliminatoires, mais on s'enligne vers le bon chemin.
Donc pour vous autres, on vise les séries puis on vise un championnat, rien de moins, là. C'est pas une équipe de transition, c'est pas une équipe de reconstruction, là.
Non, exactement. On vise le top.
Parle-moi de ça. C'est comme ça qu'on développe une attitude de gagnante. C'est sûr qu'au cours de la saison, on va suivre évidemment les faits et gestes de ta formation. On va te souhaiter évidemment le mot de Cambronne. Et j'aimerais poursuivre la discussion concernant l'actualité dans le monde du basketball et certainement en NBA. C'est jamais plaisant de voir et d'entendre qu'un entraîneur ou toute personne qui œuvre dans le sport professionnel perd sa job. Mais surtout quand c'est Steve Nash qui perd son job d'entraîneur-chef avec Brooklyn, est-ce que c'est l'histoire d'un entraîneur qui s'est fait montrer la porte par son vestiaire, selon toi?
Oui, mais je pense que c'est l'histoire d'un entraîneur qui s'est fait mettre dans une position difficile par une organisation. On a accepté que Steve Nash soit l'entraîneur de Brooklyn après, même en sachant qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience de coaching, mais on a basé le tout sur ses années d'expérience comme athlète dans la NBA. On sait que c'est pas nécessairement les meilleurs athlètes qui font les meilleurs entraînements, puis c'est un parfait exemple. Malheureusement, je suis une grande fan de Steve Nash, mais c'est encore une fois, je pense qu'on l'a mis dans une situation difficile, puis pour créer une culture à l'intérieur d'un programme, on sait que les entraîneurs-chefs, c'est pas nécessairement ce qui se passe sur le terrain. Des fois, les athlètes, ils ont plus de connaissances que certains entraîneurs, mais pour être capable, d'établir une culture et tout ça, ça prend de l'expérience, puis il y avait un manque d'expérience de ce côté-là.
Est-ce que selon toi, on va revoir Steve Nash sur les lignes de côté, ou pour toi, ce passage-là va confirmer qu'il va peut-être devoir passer à quelque chose d'autre?
Non, j'espère qu'il va pouvoir rester sur les lignes de côté avec une autre équipe peut-être dans un rôle d'entraîneur adjoint, peut-être dans un rôle de développement de joueur. On l'a vu dans le passé, puis là, j'ai un exemple qui me vient en tête. Là, les Raptors de Toronto, ils ont gagné le championnat mondial en 2018-2019, si je me trompe pas. Un des entraîneurs adjoints avait été transféré comme entraîneur-chef d'une équipe de la NBA, puis ça n'a pas duré un an non plus. Fait que c'est encore un autre exemple d'un entraîneur qui était entraîneur adjoint puis qui n'était pas pas prêt encore à prendre les rênes d'une équipe. Ça prend du temps, ça prend de la patience. Puis c'est un talent aussi, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Donc oui, j'espère qu'il va rester dans une organisation, mais peut-être avec un rôle un peu plus précis pour lui.
On souhaite évidemment. Sur le terrain, il y a des joueurs qui se démarquent et pour les bonnes raisons. J'ai même arrêté un peu sur le cas de Ja Morant qui ne cesse, écoutez, de faire parler de lui et d'avoir les faits saillants de fin de soirée pour autant son offensive que sa défensive. Est-ce qu'on parle, selon toi, du joueur le plus complet en NBA en ce moment?
C'est une belle question. Le plus complet. Il s'enligne vraiment pour avoir le titre de joueur le plus utile. Cette saison, je ne sais pas. Il est encore super jeune, hein, il a seulement 23 ans. Oui, exactement. Si la question, c'est est-ce que c'est le joueur le plus athlétique dans la Ligue présentement, la réponse est 100% oui. Est-ce que c'est lui qui va prendre le titre? Je sais pas. Je pense que la saison, c'est ça, son 4 victoires, 3 défaites, si je me trompe pas. Faut faire partie d'une bonne équipe, d'une bonne organisation. Est-ce qu'il y a le pouvoir de changer ça puis de vraiment prendre ça sur ses épaules? Mais là, le temps va nous le dire. Mais définitivement, là, dans les prochaines années, c'est un titre de joueur le plus utile qui s'en vient.
Quel magnifique joueur. Un énorme de joueur, pour tous les sens du terme, LeBron James. Mais LeBron James, membre des Lakers, ne va nulle part. Je te pose la question, où est-ce qu'il s'en va, LeBron James?
En ce moment, il s'en va pas loin. Il est encore dominant. Et je pense que le problème avec LeBron James, c'est l'alignement, là, c'est les joueurs avec qui il joue. C'est un alignement avec des joueurs, avec des athlètes qui sont plus âgés. Fait que ça fait une différence. On le voit avec les Golden State dans les dernières années, une équipe super dominante, mais une équipe qui est plus jeune, puis une équipe avec des athlètes que ça fait plus longtemps qu'ils jouent ensemble, donc ils ont plus de cohésion sur le terrain, qui sont bien entraînés, là, évidemment. LeBron James, je pense qu'il est rendu à un certain âge parce qu'il est encore un athlète là, incroyable, mais il va devoir s'entourer d'athlètes plus jeunes, à mon avis. Son équipe est un peu plus âgée.
Marre bien qu'il y a des choses, il y a des raccourcis qu'on peut prendre. C'est, au lieu d'attendre que les gars arrivent, il peut peut-être déménager puis aller voir si le gazon est plus vert ailleurs. Mais ça sera pour un autre sujet. LeBron James. Oui, vas-y.
Moi, j'allais dire, il l'a fait dans le passé.
Ben, c'est ça.
Ça pourrait qu'on le voit, mais il y a des contrats à l'extérieur de la NBA. Je pense qu'il est bien à Los Angeles. Je pense qu'il aime ça là-bas. Est-ce qu'il est en fin de carrière? Est-ce qu'il veut bouger toute sa famille? Tu sais, il y a d'autres questions, je pense, à l'extérieur du basketball pour lui. Mais oui, il l'a déjà fait dans le passé, puis ça se pourrait qu'on le voit.
J'espère juste seulement qu'il ne reste pas à Los Angeles pour préparer sa carrière d'acteur, parce que côté acteur, ouais. LeBron, pas trop bon. Ceux et celles qui n'ont pas regardé là, le Space Jam numéro 2, là, allez voir ça. Un Oscar, ça n'arrivera pas pour lui. Les Raptors. Les Raptors, hier, une victoire contre Atlanta, une grosse victoire, 139-109. Mais ce qu'on doit reconnaître également, c'est leur jeu défensif. Mais je te pose la question, il y en a qui vont reconnaître et qui vont s'étonner du fait que les Raptors sont extrêmement efficaces défensivement ce début de saison. Mais selon toi, est-ce que c'est tout simplement la suite logique de l'an dernier? Parce qu'à moins de me tromper, en deuxième moitié de saison, c'était effectivement une des meilleures défensives de la Ligue, là.
Oui, moi je pense que c'est une continuité en fait du travail de Nick Nurse, qui est l'entraîneur-chef. Je pense que c'est ça qui fait une différence aussi avec notre équipe nationale senior masculine. Mais pour revenir avec les Raptors, tu sais, le recrutement, le repêchage, il est vraiment fait en sorte que, parce que c'est pas tous les athlètes, on le sait, dans la NBA qui participent du côté défensif.
Puis ça prend une implication. Puis un gars qui devient de plus en plus complet, c'est Barnes également. On n'arrête pas d'en parler, mais lui, il est quand même pour finir son jeu des deux côtés du terrain, là.
Oui, exactement. Puis c'est ce qu'il recherche dans le repêchage. C'est des grands gars athlétiques qui sont capables de défendre, mais qui sont aussi capables d'avoir un apport du côté offensif. Il favorise la cohésion d'équipe au lieu du jeu individuel. Nick Nurse, c'est vraiment une façon de coacher différente de beaucoup d'entraîneurs dans la NBA. La défensive, c'est certainement une de ses forces. Puis pour ceux et celles qui sont mordus là, du basketball puis qui regardent les matchs, on l'a vu dans les séries éliminatoires l'année dernière, il y a une façon de défendre différente des autres entraîneurs. D'un match à l'autre, il y a des stratégies différentes. On peut vraiment l'apercevoir là, quand on regarde les matchs. C'est impressionnant pour vrai à voir. C'est beau aussi parce que c'est ça. C'est pas tous les entraîneurs, c'est pas tous les athlètes qui respectent ce jeu défensif-là, mais Nick Nurse, je pense, a fait une différence avec son équipe.
Très bon vendeur, très grand coach, M. Nurse, puis bonne chance aux Raptors pour la suite des choses. Bonne chance aux GGs, programme féminin de basketball, qui débute sa saison en fin de semaine contre McMaster's, le 4 et le 5 contre York. On peut voir les matchs, évidemment, chez vous. C'est au Centre Minto que ça se passe pour vous autres?
Non, nous, c'est à Montpetit.
Montpetit, on va encourager les GGs.
Peut-être un nouveau pavillon, éventuellement, on l'espère. Mais non, pour l'instant, c'est à Montpetit.
Ça commence avec les succès, puis je suis sûr que vous allez en avoir cette année. Rosanne, toujours un plaisir. Bonne fin de semaine, bonne semaine de préparation, et on se dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à bientôt.
Rosanne Joly, mesdames, messieurs, cette portion d'émission vous était présentée par Véronique Lesseur, courtière immobilière. Faut pas l'oublier. Justement, Véronique Lesseur qui vous présente le hockey des Sénateurs. 19h05, le coup d'envoi. Les Sénateurs qui complètent leur petit voyage en Floride face au Lightning de Tampa Bay. On aura l'avant-match du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est qui s'en vient dans quelques instants avec le coach Sancartier. Merci de nous avoir accompagnés. C'est disponible sur la balado-diffusion maintenant et pour tout le temps. Alors, allons-y gaiement. Merci à Antoine Pruneau, merci à Renaud Lavoie, merci également à Martin Lagenais et à Rosanne Joly. Merci à Mick Lafleur qui était à la mise en onde. Mon nom est Nicolas Saint-Pierre. Demain, 17h30, version normale de 17h30 à 19h. Entre-temps, on passe une belle soirée ensemble avec le hockey des Sénateurs, Véronique Lecier. Salut tout le monde!